Bonjour Christian.
Bonjour Renou.
Alors, je te introduis, on parle en anglais ou on parle en français?
Français.
Français?
Oui.
Ok, alors vous êtes en charge de Orville International Canada, vous avez aussi une agence d'édition et de livres.
Distribution aussi, oui, de livres.
Vous avez fait aussi, vous étiez aussi engagé dans la politique un petit peu au Canada.
Oui, j'ai eu une expérience en 2008.
Bon, donc c'est ça, cela dont on veut parler, puisque vous avez un nouveau premier ministre et... ça a l'air comme une nouvelle avenir pour le Canada.
Oui, c'est arrivé l'élection le 19 octobre dernier. Et l'Eurovillienne canadienne Paulette, là, justement, me mentionnait que c'était le jour de la Durga Puja, la fête de la victoire. C'est peut-être un signe. Ouais. Et c'était une surprise parce que Justin Trudeau n'était pas le favori au début. Et pendant la campagne électorale, qui était assez longue, c'était le premier ministre sortant qui avait fait ça assez long, pensant pouvoir gagner des points, mais non, il en a perdu parce que Justin Trudeau s'est fait connaître, il a fait connaître ses idées, il s'est affirmé, et ça a été une grosse surprise, il a remporté l'élection de façon majoritaire.
Oui, c'est merveilleux de voir un jeune en tête, mais dis-moi, votre position, c'était comment vous étiez engagé politiquement déjà pour nos auditeurs?
Alors, c'était donc le Parti libéral du Canada, le même parti dont Justin Trudeau est le chef actuellement. Et bon, c'est un parti qui a été identifié longtemps avec vraiment ce qui s'est fait de mieux au Canada, quand même.
Donc un agenda progressiste.
Oui, c'est ça. Et c'est le parti libéral, mais le libéralisme canadien, c'est très différent du néolibéralisme tel qu'on l'entend en Europe. Ça a un sens tout à fait différent. Et il faut revenir à la racine étymologique du mot libéral. Libéral, ça veut dire partisan des libertés, et ça veut dire aussi être généreux. On est libéral avec quelqu'un, on est généreux. Et donc c'est ces deux aspects. Vraiment un accent très très fort sur les libertés. Bon, Pierre Elliott Trudeau, le père de Justin Trudeau, c'est lui qui a fait la charte des droits et libertés canadiennes, un texte qui protège vraiment les droits et libertés de chacun. C'est très important, en 1982. Donc voilà. Ça veut vraiment dire une pensée axée sur les libertés et sur la générosité sociale.
Ok. Et puisque toi, tu es toujours associé et familier avec le yoga de Sri Aurobindo et tu travaillais dans ce parti, et on entend dire que Justin Trudeau aussi, il n'est pas complètement infamilier, ils sont familiers avec le yoga de Sri Aurobindo. Est-ce que tu peux nous parler de cette relation un peu?
Oui, c'est à plusieurs niveaux. Disons, son père, Pierre Elliott Trudeau, connaissait. Il a quelqu'un de sa famille, je pense que c'est son frère, qui a demeuré longtemps à l'ashram de Sri Aurobindo, dans les années 70, je pense. Et Pierre Elliott Trudeau a confié à quelqu'un que pour toutes les grandes décisions, il faisait appel intérieurement à la mère. Donc c'est assez spécial.
C'est Justin ou son...
Non, son père. Pierre Elliott. Donc, et la femme de Justin Trudeau, Sophie Grégoire, est moniteur de yoga. Et il y a un article dans un magazine sur Internet que Nadaka...
Notre musicien Orvilien,
il demeure maintenant à Vancouver. Et il était très content de la victoire de Justin Trudeau. Oui. Et il m'a écrit, il m'a donné cette référence de cet article où Sophie Grégoire cite Sri Aurobindo, Toute vie et yoga. Et elle dit comment ça l'avait beaucoup influencé, que le yoga avait eu un grand impact dans sa vie et lui avait fait découvrir l'unité toute chose et donner accès à son moi divin. Alors c'est quand même... Et puis il y a les photos où on voit Justin faire des asanas devant le Parlement d'Ottawa. Enfin,
oui, j'ai vu.
Il a fait aussi...
J'ai vu aussi tomber des escaliers, j'ai trouvé ça
très beau. Ah oui, ça aussi. Il a aussi fait une danse un peu à la Bollywood. Là. Et dans son cabinet de ministre, on compte 4 ministres sikhs.
Oui, j'ai remarqué aussi.
Sur 30. ministres. Donc, ce qui fait le gouvernement au monde qui a le plus de ministres sikh.
On dirait que déjà avec le cabinet qu'il a choisi et tout, que c'est déjà assez large dans, ethniquement. Et,
Oui, il a aussi respecté la parité homme-femme, donc autant de femmes que d'hommes, pour envoyer un signal. Et quand les gens lui disaient, oui, mais pourquoi pas prendre en compte la compétence des gens, juste le sexe. Il me dit, nous sommes en 2015. Ouais. Simplement.
Et bon, c'est un peu tôt maintenant de dire comment ça va aller, il commence juste maintenant. Donc, mais déjà, on voit qu'il avait pris des décisions d'arrêter la guerre en Syrie, par exemple, d'accueillir des réfugiés
oui,
syriens.
C'est ça. Donc, le gouvernement précédent était J'étais engagé à fournir des avions pour faire des frappes aériennes sur la Syrie et l'Irak. Et Trudeau, dans ses promesses électorales, il a dit qu'il cesserait cette action-là. Et c'est ce qu'il a fait. Quelques jours après avoir été élu, il a pris la décision d'enlever les avions. Et il dit que pour l'instant, c'était un problème humanitaire. Ouais, il fallait répondre de façon généreuse, comme le Canada l'a toujours fait. On a accueilli des réfugiés ukrainiens, on a accueilli, il y a un siècle, il y a plus longtemps, des Irlandais, et plus récemment, des gens du Vietnam, du Kosovo. Et le gouvernement précédent, le gouvernement conservateur, ne voulait accepter que des réfugiés syriens de confession chrétienne.
Ah, comme la Serbie.
Et donc, Justin Trudeau, il a réagi de façon très, très virulente. Il a dit « c'est répugnant ouais. ».« It's disgusting », il a dit. On ne choisit pas les réfugiés sur
leur ligne de
leur religion, ou n'importe quoi. C'est des gens qui souffrent, on les accepte. Donc, il a pris l'engagement d'accepter 25 000 réfugiés jusqu'à Noël, jusqu'à la fin de l'année. Sauf que, il est arrivé les événements tragiques de Paris, oui. Du 13 novembre. Oui. Et c'est sûr que ça fait un backlash. Donald Trump en a profité aux États-Unis pour dire qu'il allait interdire à tout musulman d'entrer aux États-Unis. Enfin, c'est complètement fou. Et non, Trudeau a gardé sa ligne. C'est sûr que ça a pris un peu plus de temps. Donc, il y aura 10 000 réfugiés d'ici la fin de l'année qui vont venir, et puis les 15 000 autres en février. Parce qu'il fallait donner des garanties à la population au niveau de la sécurité. Bon, les gens étaient inquiets.
Parlons un petit peu de l'ambiance au Canada depuis que vous avez ce nouveau Premier ministre. C'est quoi l'atmosphère là-bas?
Son élection a eu un impact considérable au Canada, dans le monde, et même à Auroville, parce que ça fait une semaine que je suis là, et puis tout le monde me dit « Oh, vous avez quelqu'un des patents de formidable comme Premier ministre. »
Bon, d'abord, c'est rare de voir des jeunes, il a 44 ans.
Oui, c'est ça, il a une image de jeunesse, d'énergie, et il a aussi un parcours atypique, hein. C'est pas un avocat comme l'a été son père ou beaucoup de politiciens. Il a fait toutes sortes de métiers. Moniteur de ski, videur de bar, il a fait de la boxe, professeur de français et professeur de théâtre. Ce qui est important parce qu'il faut dire qu'il a le sens de la mise en scène. Il a le sens aussi de la formule choc. Mais c'est pas juste du marketing. Je pense que on sent vraiment que quand il parle, quand il agit, ça vient du cœur. Moi, je pense que son action, c'est un mélange, un amalgame de Bhakti Yoga, la voie du cœur, et de Karma Yoga, la voie de l'action, visiblement.
Souvent, ce qu'on trouve, c'est qu'après, dans le milieu dans lequel il se trouve, le département, les various departments et tout du gouvernement, ça devient lourd et ça apaise. Et puis, c'est difficile, souvent, pour des nouvelles idées de vraiment au jour, parce qu'il y a toujours plein de résistance, il y a plein de façons de faire, des habitudes et tout ça. Alors
on l'a vu avec Obama, parce qu'en 2008 il y a eu aussi un grand espoir, un impact mondial quand même à l'élection d'Obama, et beaucoup de gens ont été déçus de son action. Ben, il faut dire qu'aux États-Unis, Obama, il a fait face à un congrès républicain. Donc,
il était bloqué partout.
Il était bloqué. Et je pense, malgré tout, son bilan n'est pas si mauvais. Et même plutôt bon, je trouve. Mais Justin Trudeau, en étant majoritaire, il a beaucoup plus de pouvoir qu'un président américain face à un congrès hostile. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de cyniques qui disent « Bon, oui, c'est des belles paroles, des belles images, mais l'action ne suivra pas, la politique, c'est pourri, c'est corrompu. » Mais je garde espoir parce qu'il a une énergie, il a quelque chose de particulier.
Oui. Est-ce que toi, personnellement, tu as eu contact avec lui récemment
Pas récemment, disons. Moi, je me suis présenté donc en 2008. Lui, c'était sa première élection. Donc, on était tous les deux candidats de Montréal. Donc, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Et lui a été élu. Bon, moi, j'ai été battu de justesse par 2% des voix. Mais c'était une belle expérience, je ne regrette pas. Et dans les
Même si vous étiez pour la même poste, vous entendiez, vous n'étiez pas...
Non, on était du même parti, dans deux comtés, deux circonscriptions différentes.
Ok, d'accord.
Non, on était des collègues.
Ok.
Et j'ai perdu contre un autre candidat d'un autre parti.
Ok.
Et justement, dans l'un des entretiens que j'avais avec lui, je lui parlais de Katimavik. Katimavik, ça c'est un programme d'échange de jeunes entre les régions du Canada, pour que les jeunes se connaissent d'une région à l'autre. Et c'est un programme qui marchait très bien, qui était établi sous le gouvernement de son père, Pierre Elliott Trudeau.
C'est comme un exchange programme d'étudiants dans une école qui vont à une autre.
C'est ça, travailler, étudier. Aller dans des communautés, bon, des francophones, aller dans le Grand Nord, des anglophones, venir au Québec, etc. Et il y avait aussi un autre programme qui avait été mis sur pied aussi sous le gouvernement de Pierre Trudeau, qui s'appelait Jeunesse Canada-Monde. Donc des échanges de jeunes entre différents pays du monde. Et ça marchait très bien, ça a été enlevé par la suite par des gouvernements conservateurs. Mais Justin Trudeau est demeuré président de Katimavik, même si ça ne fonctionnait plus beaucoup.
Okay.
Et je lui parlais de ça, et il était tellement enthousiaste là-dessus que je suis persuadé, j'ai le sentiment qu'il va le relancer, peut-être avec beaucoup plus de moyens encore, parce que c'est sûr qu'il faut offrir quelque chose aux jeunes, parce que sinon, faut pas oublier qu'il y a des idéologies nihilistes radicales qui attirent les jeunes en ce moment dans tous les pays. Il y a des Canadiens qui se sont retrouvés à faire partie des djihadistes.
Ouais, c'est terrible. Mais c'est le désespoir un peu. Enfin, c'est beaucoup le désespoir. Et après, tout le monde devient fou. Il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas. Personne ne sait.
Il y a une morosité, une morosité générale dans le monde entier. Et c'est pour ça que bon, ça donne une bouffée d'air frais, cette élection-là.
Oui.
On peut ne pas être d'accord 100% avec ses idées, mais il faut reconnaître que ça donne élan, un espoir.
Ce programme, ça me rappelle, dans les années 70, il y avait aussi JFK qui avait lancé un truc, c'était comme un paramilitaire où il partait, tu vois ce que je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à Auroville à cause de ce programme.
Je ne me rappelle pas le nom exact, là, mais
c'était le UN, mais c'était un truc de jeunesse, youth.
Oui, ça marchait bien aussi.
Et c'était super, ce truc.
C'est ça, alors donc on pourrait, avec ces programmes-là, avoir des volontaires canadiens à Auroville.
Ça serait fabuleux. Non, si je me rappelle, il y avait plein d'Américains, des jeunes qui venaient, puis c'était toujours des gens intéressants, ils avaient... des skills ou de professeurs ou de quelque chose, donc ils venaient s'engager, je ne me rappelle plus le nom, ça va me revenir.
C'est ça, puis en relation avec le yoga, petite anecdote, le premier discours de victoire de Justin Trudeau, il a parlé des voix ensoleillées, Sunny Ways, il dit Sunny Ways, my friends. Bon, il faisait référence à un discours prononcé il y a un siècle, par un ancien premier ministre canadien, libéral aussi, lui, Wilfrid Laurier. Et Justin Trudeau, il disait que bon, Wilfrid Laurier, il savait que la politique peut être une force positive. Alors c'est sûr que les voix ensoleillées, ça, tous ceux qui ont lu Schérumindo et Maire, ça leur dit quelque chose, parce que Schérumindo et Maire ont beaucoup parlé de la voix ensoleillée. Même si ça n'a pas de rapport direct, mais c'est quand même
Des signes. C'est quand même, c'est une des choses que Schérumindo il parle toujours, il soulève souvent, « the sunlit path ». En parlant de ça, je sais que souvent la politique est mal vue et tout ça parce que ce que c'est devenu très banal, c'est devenu communautaire, un contre l'autre et tout. Mais en fait, pour des gens, je sais pas, sûrement pour toi et pour moi, je lis tout en termes de force supramentale, si tu veux, qui travaille, et donc ça travaille aussi beaucoup dans les politiques. Et donc, pour moi, les mouvements des pays...
C'est un yoga intégral. Alors, c'est sûr que la politique ne peut pas être mise de côté complètement comme quelque chose à laquelle il ne faut pas toucher. Puis la politique, comme disait Platon, comme l'a exposé Platon, c'est la gestion de la cité. C'est le savoir-vivre ensemble, c'est important.
Et maintenant, ça devient global, donc c'est très important pour moi. C'est très intéressant de voir que les pays sont plus ou moins ouverts à comprendre, par exemple, le chauffement climatique et tout ça. Toutes ces choses qui pressent, maintenant, ça va demander une politique un peu plus terrestre.
C'est ça, et les décisions des hommes politiques ont une importance considérable sur notre vie quotidienne, individuelle et collective.
Je le pense aussi.
Il y en a beaucoup qui disent que bon, la voie de la spiritualité ou du yoga, bon, il ne faut pas s'intéresser, il ne faut pas toucher à la politique. Mais Sri Aurobindo et Maire eux-mêmes, au moment de la Seconde Guerre mondiale, ils ont vraiment se sont déclarés en faveur des alliés de façon très claire. Ils ont soutenu.
En envoyant de l'argent.
Et oui, de toutes les façons. Oui. Et Maire aussi influençait de façon directe Nehru et Gandhi, ça on le sait. Oui. Donc non, la politique, ça peut être dangereux, c'est sûr. Ça a un pouvoir corrupteur,
voilà. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on voit que oui. C'est difficile d'avoir la vie spirituelle et cette force très fortement...
C'est ça, mais quand on a une bonne volonté et qu'on laisse ça à des gens sans scrupules, ben ça, on n'est pas avancé.
On n'est pas avancé du tout. Donc on est bien d'accord là-dessus.
Vous savez, il y a des questions comme, qui sont beaucoup débattues en France, notamment après les attentats. Le président Hollande, là, il avance l'idée d'enlever la nationalité à des gens qui sont nés en France, mais qui auraient une double nationalité.
Ouais.
Et ça a été soulevé aussi par l'adversaire de Justin Trudeau, qui voulait faire la même chose. Et Justin Trudeau a réagi aussi de façon très très claire. Il a dit « Canadian is a Canadian is a Canadian ». Point.
En prenant Gertrude Stein, « A rose is a rose is a rose
». Oui, c'est ça, exactement. Donc on voit qu'il se situe vraiment à contre-courant du mouvement mondial actuellement, qui dit que pour combattre le terrorisme, il faut restreindre les droits et libertés. Non, c'est très clair, il est contre ça. Et justement, selon la pensée du libéralisme canadien, si on enlève un droit, c'est qu'on enlève tous les droits. Si on restreint une liberté, c'est qu'on restreint toutes les libertés. C'est pas négociable.
Et non seulement ça, on peut aussi voir ça comme une défaite et une victoire de l'adversaire, si tu veux, quelque part.
Tout à fait, c'est ça qu'ils veulent, hein, les dits terroristes. Et donc, en politique étrangère, il y a une grande tradition au Canada, vous savez, c'est Lester B. Pearson qui est devenu Premier ministre, mais quand il était ministre des Affaires étrangères, au moment de la crise de Suez, c'est lui qui a créé les casques bleus des Nations Unies. Mm. Et il a reçu le prix Nobel après pour ça. Mm. Donc, il y a une longue tradition de médiation, de résolution des conflits, d'engagement dans les forces de maintien de la paix. Et le gouvernement précédent avait une approche idéologique très partiale et plutôt agressive. Donc tout ça, c'est complètement balayé. Et on revient à la ligne traditionnelle du Canada qui est de faire avancer la cause de la paix dans le monde.
Parlons un petit peu au Canada. Vous aviez vos propres peuples indigènes là-bas et j'ai vu récemment qu'il y a eu un pardon enfin, de la part du gouvernement envers des peuples qui étaient internés.
Oui, il y a eu beaucoup de problèmes à l'égard des Autochtones. On ne peut pas dire que le Canada peut être très fier de la façon dont il a traité les Premières Nations. Pendant près d'un siècle, jusque dans les années 70, c'est 150 000 enfants amérindiens, métis et inuits qui ont été arrachés de leur famille et placés dans des pensionnats religieux. C'était visiblement dans le but d'enlever une culture. Mais ça a été des drames parce que beaucoup de ces enfants ont été victimes de sévices, abus sexuels. Il y en a 3000 qui sont morts, la plupart de tuberculose. Donc c'était des pensionnats religieux, mais où il ne se passait pas vraiment des choses très, très, très belles et très intéressantes. Et il y a eu une commission, ils ont appelé Commission de vérité et réconciliation, qui a présenté un rapport. Et ce rapport, justement, c'est Justin Trudeau, qui était Premier ministre, le 15 décembre, qui a présidé cette cérémonie où tous les chefs autochtones étaient là, étaient présents, et c'était très émouvant. Les chefs autochtones étaient émus, Justin Trudeau était très ému, on sent c'est vraiment la
voix du cœur. Tout
le monde pleurait.
Ouais. Mais qu'est-ce qu'il s'était dit, en fait? C'est quoi? Il a juste offert des excuses?
Offert des excuses, aussi un montant d'argent, quand même, 2 milliards de dollars. Pour les victimes. Et ce qu'il a dit, je l'ai ici, il dit:
«
Vous avez pendant trop longtemps porté sur vos épaules le fardeau de cette expérience. Ce fardeau nous appartient en tant que gouvernement et en tant que pays. Désormais, l'un de nos objectifs est d'accepter pleinement nos responsabilités et nos échecs comme gouvernement et comme pays. » Donc il a demandé pardon au nom du gouvernement fédéral qui avait créé ces exactions. Et ce rapport-là contient 94 recommandations, des appels à l'action qui s'est engagé à suivre. Parce que dans les communautés autochtones, il y a des problèmes de discrimination, de chômage, de pauvreté chronique, avec les conséquences, dépendance à l'alcool, aux drogues.
C'est pareil aux États-Unis. J'ai vu la même chose, en fait.
Violence conjugale, taux élevé de suicide. Et alors, il y a un autre problème concernant les Autochtones, c'est depuis 20 ans, on compte environ 1200 femmes autochtones assassinées ou disparues. Et personne ne sait trop ce qui s'est passé. Et il y a eu des problèmes, des fois, en Alberta et même au Québec, vous voyez que c'était dû à l'action de la police. La police était responsable de certaines de ces choses-là. Et pendant 10 ans, le gouvernement précédent, tout le monde disait il faut faire une enquête, il faut faire une enquête là-dessus, il faut éclaircir la question. Et il a toujours refusé. Et donc, une des premières actions de Justin Trudeau, ça a été de démarrer cette enquête-là.
C'est curieux qu'ils se sont visés à des femmes, c'est pas coutumière.
Oui, donc on ne sait pas si c'est...
Si c'est exprès ou si on
ne
sait rien.
La parenté,
en fait.
La police, on ne sait pas. Mais c'est un fait qu'il y a plus d'un millier de femmes qui ont disparu sans laisser de traces.
Et ça, c'est dans les années 70?
Oui, c'est récemment, là. C'est depuis 20 ans.
Donc, moi, je me rappelle aux États-Unis, quand Clinton, il avait aussi... J'ai trouvé ça avait un impact et un pouvoir, se demande de pardon aux victimes. Et je trouve ça, pour un pays, moi, je pense que chaque pays a des karmas, et ils peuvent changer leur karma à fur et à mesure qu'ils seront conscients de leurs erreurs.
C'est sûr qu'il ne faut pas se contenter de paroles, mais c'est un premier pas très important.
Ah,
reconnaître qu'on a fait une erreur, et vouloir la réparer aussi, parce qu'il faut la volonté aussi.
Mais même ce truc, même en Australie aussi, on avait Kevin Rudd à l'époque qui demandait pardon aux indigènes, aux aborigènes, Clinton aux Japonais qu'il avait interné pendant la guerre. Et c'est important, ces choses-là.
On a fait ça aussi au Canada, à l'égard des Japonais qui ont été internés de façon arbitraire.
Complètement.
qui étaient des citoyens canadiens depuis longtemps.
En plus, qui allaient se battre dans la guerre pour leur pays, pendant que leur famille se faisait entamer. C'était incroyable.
On parlait de Pierre Trudeau. Quand Pierre Elliott Trudeau visitait les grands de ce monde, la reine Elisabeth, le président américain, etc., il emmenait ses enfants avec lui. Donc Justin, à 8 ou 10 ans, a rencontré la reine, a rencontré Nixon. Nixon lui a même dit « Bon, je porte un toast au futur Premier ministre canadien ». C'est intéressant, anecdote. Mais toutes ces visites n'empêchent que ça a préparé le jeune Justin Trudeau. Parce que là, il est devenu Premier ministre de façon inattendue. On voit très bien qu'il n'a aucun complexe. Il parle d'égal à égal avec Obama, avec tous les chefs d'État. Bon, c'est une bonne préparation qu'il a eue,
oui.
Et pour revenir à l'action de son père... Pierre Elliott Trudeau, il avait d'abord été ministre de la Justice sous Lester B. Pearson. Et c'est lui, comme ministre de la Justice, Pierre Trudeau, qui avait légalisé le divorce, décriminalisé l'avortement et l'homosexualité. Et il s'était fait connaître beaucoup là-dessus. Et il avait déclaré que l'État n'a rien à faire dans les chambres à coucher de la nation. Et ensuite, il est devenu Premier ministre en 68. Il a aboli la peine de mort et son idéal, ce qu'il a décrit, c'était ce qu'il appelait la société juste. Donc, société juste, il l'a fait avec la Charte canadienne des droits et libertés. Bon, ça voulait dire juste de façon égalitaire et juste aussi au niveau des libertés. Et il a fait aussi la loi sur les langues officielles, une des premières lois qu'il a fait en 69. Qui donne un statut officiel à l'anglais et au français au niveau fédéral. Bon, maintenant, tout n'est pas parfait. Il y a des provinces où il y a des minorités francophones, françaises, qui doivent se battre encore pour faire reconnaître leurs droits au niveau du gouvernement provincial. Au niveau fédéral, c'est l'égalité officielle, mais au niveau provincial, il y a encore du chemin à faire. Parce qu'on a... 85% de francophones au Québec, donc au Québec, il n'y a évidemment pas de problème pour le français. Et au Nouveau-Brunswick, il y a 33% de francophones, là aussi ça se passe assez bien. Mais dans d'autres provinces, il faut encore, les communautés francophones doivent encore se battre.
Quels sont les grands challenges au Canada maintenant ?
Ben, il y a le développement durable, l'environnement. Il s'est prononcé de façon très claire pour une économie verte, pour une énergie renouvelable. Mais c'est sûr que le Canada est très dépendant du pétrole. Le gouvernement précédent, pendant 10 ans, il a tout misé sur le pétrole. Puis là, le pétrole est au plus bas, donc la devise canadienne aussi est assez basse. Donc c'est sûr que ça va prendre du temps. Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques à ce niveau-là et vont dire, il dit des belles paroles, mais enfin, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais vous savez, il y a eu la conférence de Paris sur le climat.
Le COP21, oui.
Et il a amené une délégation vraiment très impressionnante. Il a invité les premiers ministres des autres provinces, ce que son prédécesseur ne faisait jamais. Il a invité même les chefs de l'opposition. Et il y avait vraiment beaucoup de monde du Canada et une grande participation très active à cette conférence.
Ah, c'est bien.
Et même la première...
Mais je pense que ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont un petit peu, avec leur goût de le sable, le goudronné, cette région-là, ils ne sont pas trop...
C'est ça, c'est le pétrole. Bon, c'est sûr que ça...
Ça fait une partie importante de votre...
Une cause de la richesse du Canada. Pétrole qui est tiré des sables bitumineux.
Ouais.
Donc, ça prend énormément d'eau, énormément d'énergie pour transformer ces sables bitumineux en pétrole. Et on dit que au prix actuel du pétrole, c'est pas rentable. Parce que c'est un investissement. Mais c'est sûr que quand le pétrole était à 60$, le double de ce qu'il est actuellement, c'était payant. Mais là, ça l'est plus payant. Mais c'est très polluant. Il y a des effets de gaz de serre qui sont...
C'est terrible. On dirait qu'on s'accroche encore à ces formes-là parce que mettre de l'argent dans du recherche et développement, ça éloignera encore. On a besoin de 10-15 ans pour vraiment arriver à rentabiliser un peu l'énergie verte, n'est-ce pas,
de trouver... C'est ça. Mais c'est sûr
Mais il faut commencer, parce que 10-15 ans vont arriver de toute façon.
Oui, c'est ça. Puis on voit que les États-Unis se sont embarqués dans la fracturation des gaz de schiste. C'est terrible. Ça pollue des puits et tout ça.
Et puis même, regarde, la Chine qui est économiquement tellement avancée, quel prix elle paye ? Leur nappe phréatique est empoisonnée, l'air, on ne peut pas respirer. C'est quoi le prix ?
L'air de Pékin est irrespirable en ce moment.
Oui, alors, qu'est-ce qu'on a gagné à la fin ? Parce qu'ils vont dépenser tout leur gain économique pour rétablir la situation.
On va voir. C'est sûr que ça va prendre du temps parce qu'il faut.
Bien sûr.
D'abord, avoir des mesures pour moins polluer quand on produit ce genre de pétrole. Ça coûte cher aussi. Et puis, il faut aller vraiment vers une énergie verte, solaire, éolienne, etc. Mais l'économie verte, c'est rentable. Moi, quand je me suis présenté en 2008, c'est un peu pour ça que je m'étais engagé, parce que le chef du Parti libéral à l'époque, Stéphane Dion, il avait tout axé là-dessus. C'était le ministre de l'Environnement et il était devenu chef du parti. Et son programme, ça s'appelait « Le tournant vert ». Et c'est un programme très intéressant qui m'avait emballé. Sauf que ça n'a pas été populaire. Les gens n'étaient pas prêts, probablement, en 2008.
C'était avec l'emphasis sur des éoliennes ou...
Oui, c'était vraiment convertir toute l'énergie, toute l'économie du Canada de façon verte. C'est un programme. Mais là, il est devenu ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est lui qui supervise un peu l'environnement. Il était à la conférence de Paris et je suis sûr que c'est une personne très compétente, qui a des bonnes idées. Et je pense qu'on va être agréablement surpris, du moins je l'espère, en ce qui concerne la conversion de l'économie en économie verte. Mais il faut rester vigilant, c'est sûr.
On se demande aussi quand c'est qu'il va venir visiter. Le Canada et l'Inde ont toujours eu des rapports.
Il a rendu visite au Premier ministre indien, Modi, avec sa famille déjà, quand il n'était pas Premier ministre. Là, maintenant qu'il est Premier ministre, ça aura un autre impact. On espère qu'il puisse venir ici, à Auroville, ça serait intéressant.
Ouais.
Aller voir l'Inuksuk en face.
Et son jardin.
Et le jardin, c'est ça. Mais c'est à son père, donc, que Pierre Trudeau parlait de société juste. Moi, j'ai envoyé une lettre à Justin. J'ai dit, vous, c'est plutôt la société fraternelle. Parce que on peut passer aux aphorismes que Sri Aurobindo, il a écrit, numéro 325 et 326. Là. Il disait, liberté, égalité, fraternité, s'écriait la Révolution française. Mais en vérité, seule la liberté a été mise en pratique avec une certaine dose d'égalité. Quant à la fraternité, elle est impossible. Par conséquent, nous la remplacerons par l'association industrielle, ça veut dire la camaraderie syndicaliste, j'imagine. Mais il dit, Sri Aurobindo, il ajoute, mais je pense que cette fois-ci non plus, Dieu ne sera pas trompé. C'est ça, on peut voir qu'il y a eu des tentatives de plus ou moins réussies de liberté, d'égalité dans le monde, mais la fraternité, c'est toujours été laissé de côté, la vraie fraternité.
Dans une autre conversation avec Sri Aurobindo, il avait dit d'ailleurs que l'erreur était qu'il fallait mettre la fraternité en premier, et l'égalité, et après la liberté.
C'est ça, c'est parce que la fraternité, c'est quoi ? C'est le sentiment d'unité, avant tout.
Exactement.
Donc, et pour moi, ça déborde aussi l'humanité. C'est le sentiment d'unité avec la création, et avec toutes les créatures de la Terre.
Ah oui, avec qui on partage cette belle planète bleue.
C'est ça, il y a une dimension écologique à la fraternité, à la véritable fraternité, je trouve. Et disons, moi je rêve un peu, mais je pense que Justin Trudeau, même s'il ne l'a pas défini comme tel, on sent que toutes ses actions viennent du cœur. Et il est...
C'est justement un côté qui manque beaucoup.
Très chaleureuse, très proche des gens. Si réussit à faire un petit pas en avant à l'humanité, que le Canada serve un peu d'exemple à ce niveau-là, ça serait déjà une grande chose de faite.
Je pense aussi.
C'est ça, je parlais un peu de la mission, le rôle, l'âme du Canada, qui était fait de tolérance, d'ouverture aux autres, de gentillesse même, simplicité et un enthousiasme à se projeter dans l'avenir. Pour moi, c'est ça le Canada. Donc ça pourrait servir de modèle aux autres. Mais je pense qu'avant qu'on puisse faire la leçon aux autres, il faut d'abord régler ses propres contradictions. Et ça, on a beaucoup parlé pendant le siècle dernier des deux solitudes. Il y a deux solitudes au Canada, le groupe francophone et le groupe anglophone, qui se tolèrent mais qui se parlent pas, qui s'ignorent. Et ça fait longtemps que ce thème, ce concept de deux solitudes est cité. Mais moi, je trouve que, en fait, il y a trois solitudes.
J'allais dire, les indigènes.
Et c'est ça, autochtones, ça forme vraiment le groupe dont personne ne veut entendre parler, que tout le monde ignore, francophone comme anglophone. Donc, il faudrait résoudre cette contradiction triangulaire. Avant de pouvoir servir d'exemple aux autres, il faut régler d'abord ses propres problèmes.
Vite, quick question. Qu'est-ce que tu penses avec cette ouverture donc au Canada? Moi, je me rappelle toujours que mère, elle disait que ça serait quand les gouvernements voudront participer à Euroville, ça serait une chose bien pour eux et surtout pour nous, parce que maintenant, on se trouve dans cette espèce de bouillie de gagner sa propre vie et tatati. Donc, on perd un petit peu le but de pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on a à faire, parce que toute cette histoire de survie sans arrêt nous tire. Donc, c'est... Moi, je pense, d'un côté, plus on serait complètement focalisé dans le travail de faire Euroville, de l'unité humaine et de toute cette grande panoplie, plus les gouvernements voudront participer. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre peut-être maintenant, puisqu'il y a un petit peu de connexion, un peu plus de contact de cœur, qu'est-ce qu'on peut attendre?
Les valeurs canadiennes sont proches des valeurs eurovilliennes. C'est axé sur l'unité humaine, sur l'ouverture aux autres.
On va voir.
On peut pas. C'est sûr que les institutions gouvernementales, c'est difficile à bouger. Moi, je l'ai vu j'étais pendant 10 ans à Euroville International. Et puis, tout le monde disait, oui, il faut aller chercher l'aide des gouvernements. Ça, mais c'est pas. Pour moi, c'est pas prêt. Là. Il faut d'abord qu'on prouve quelque chose, que Euroville prouve quelque chose, qu'il y ait des choses qui se passent. Bon, il se passe beaucoup de choses à Euroville, beaucoup de choses merveilleuses.
Les pays ont envie de participer.
Oui, c'est ça. Donc, je suis plus dans AVI officiellement, alors je peux pas trop en parler. On va laisser les successeurs essayer de faire quelque chose, mais.
Moi, je pense que tous les pays ont ce problème. Toutes les Eurovilles internationales n'ont pas été capables de vraiment...
C'est très difficile de faire bouger les gouvernements. Alors, on ne sait pas. Le Canada, peut-être, il y aura une possibilité. On espère. Et il y a autre chose aussi que je voulais dire. Des points communs entre les valeurs canadiennes et les valeurs euroviliennes. Un autre point commun, à mon sens, c'est la dualité française-anglaise. On a deux langues officielles au Canada, qui sont l'anglais et le français. À Euroville, on a deux langues officielles non indiennes, qui sont l'anglais et le français aussi. Sauf que l'anglais a pris beaucoup de place. Alors, moi, j'espère que le statut du français sera un peu plus reconnu et respecté.
Tout comme le problème au Canada, c'est pareil pour le tamoul. Alors là, ils sont encore moins. Il y en a encore moins. Des Anglais, des Français, ils ont déjà un peu... Mais ni l'un ni l'autre parlent le tamoul.
Oui, c'est sûr.
Donc, comme vous, on a le même problème ici. Et c'est vrai que c'est une langue très, très difficile. Même moi qui est un petit peu habile aux langues, j'ai du mal.
Ah oui. Mais il y a de plus en plus de tamoul à Euroville quand même.
Oui. Mais ça ne veut pas dire pour autant que plus d'Eurovilliens parlent tamoul.
Non.
D'autres tamouls, bien sûr, parlent tamoul.
Mais en tout cas, pour revenir à cette dualité française-anglaise qui m'intéresse beaucoup, moi, mon vœu, ce serait que le Canada finance ou contribue à financer une université française, ou tout au moins bilingue, à Euroville, qui puisse rayonner, faire rayonner la langue française dans tout le sud de l'Asie. C'est mon vœu, Maintenant, je vais voir ce que je peux faire en ce sens-là, mais on verra.
Tu crois que l'Alliance française, ils ne sont pas suffisants pour faire ce travail?
Non, ça prend une université à Auroville, université française à Auroville.
Bah, écoute, on va te souhaiter de bonnes aventures avec ce projet.
C'est ma nouvelle mission.
Bravo, excellent. Merci Christian.
Merci beaucoup.